genèveactive.ch.
Grégoire Solotareff, vous êtes ici à Genève dans le cadre de la Fureur de Lille pour une exposition qui se tient à la Bibliothèque de la Cité, une exposition en forme de cabinet de curiosité. Vous aviez présenté à Moulins en 2008 une exposition également Solotareff imagier. Vous y mêliez des sources diverses, ce qui vous a fait travailler des embrayeurs d'imaginaire, des sources photographiques. Ici, on retrouve cette même approche kaléidoscopique qui rappelle un petit peu, par certains moments donnés, l'un de vos murs dans votre demeure où vous mettez plusieurs dessins ou plusieurs sources simultanées. Comment est-ce que vous avez conçu cette exposition qui mêle vraiment différents médiums, différents supports ?
J'aime organiser des expositions comme ça maintenant. J'aime bien faire venir les gens qui sont intéressés par mon travail et qu'on choisisse ensemble avec ce que j'ai, ce que je peux proposer et l'esprit des gens qui l'organisent, la liberté de choisir eux-mêmes avec leur sensibilité, avec leur regard, avec leur culture. Parmi mes images qui sont nombreuses chez moi, qui s'entassent, vous savez, quand on dessine, on a cette espèce de poids de choses qui s'entassent. On aimerait bien que ça disparaisse aussi, on aimerait bien que ça tourne, que ça se balade, que les gens voient un peu, parce qu'on a un métier extrêmement solide. Curieusement, qui est tourné vers l'extérieur, puisqu'on fait des images, on fait des images pour qu'elles soient vues, mais c'est un travail solitaire, c'est une vie assez solitaire. Donc, ces ouvertures vers l'extérieur se font grâce à des gens qui s'intéressent à votre travail. J'aime bien être libre dans ma vie, j'aime bien donc offrir aux gens qui viennent voir mes dessins une certaine liberté d'action, et je ne dis jamais comment il faut le faire. Je leur suggère de reproduire l'esprit un peu de ce qu'ils voient autour d'eux dans mon atelier. C'est tout.
Quand on découvre cette exposition, on se dit qu'entre le noir et blanc et la couleur de ces natures mortes et le noir blanc de ces arbres, on repense à ce qu'on pourrait appeler entre guillemets une technique Solotareff qui fait peut-être penser aux propos de Walter Benjamin sur la photographie à l'ère de la reproduction, c'est-à-dire cette technique notamment de la photocopie, mais vous travaillez énormément avec le support, le matériau aussi.
C'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, l'utilisation de l'encre qui est d'habitude avec la plume et sur des petites dimensions sur mon bureau. En grand et par terre. Là, je leur ai montré quelque chose qui venait d'être fait aux jeunes filles, jeunes femmes qui sont venues voir mes images. Et ça leur a plu, l'idée, à cause du sujet de l'album Adam et Ève, donc l'exposition autour d'un livre, il y avait nécessairement de la nature, etc. dedans. Donc tout ce qui était non pas une préparation au travail du livre lui-même, mais disons ma préoccupation du moment. Et ma préoccupation du moment, c'était, depuis quelques mois, de faire des photos d'arbres et d'essayer de donner l'impression, plutôt que de reproduire la réalité, d'être sous l'arbre. Et donc, nécessairement une assez grande dimension, et puis juste l'impression. C'est-à-dire, c'est du dessin très rapide, qui est fait juste avec l'impression d'être dominé par cette nature incroyable. Et surtout, les arbres en hiver me plaisent particulièrement pour leur côté nostalgique et aussi un peu puré, quoi. Du trait. J'aime beaucoup Matisse, évidemment. Et donc, la préoccupation du trait spontané, du trait y compris raté en ce qui me concerne, de la reprise, de cette liberté qu'on peut ressentir comme spectateur de cette image. Et c'est ma préoccupation souvent dans cette histoire d'exposition. C'est la seule chose que je dis aux personnes. Je voudrais qu'on retrouve l'idée de la recherche, l'idée donc d'une liberté, d'une chose pas définie dans un carcan. Et je pense que les enfants sont assez sensibles à cette liberté dans la mesure où eux-mêmes ont ce désir de liberté qui les fait dessiner. Et donc je me dis, peut-être que moi aussi, quand je regarde une image, l'idée de l'accessibilité de cette image m'est importante. Et peut-être essayer de communiquer ça me suffirait, quoi.
La dimension de l'incomplétude est à mon sens essentielle dans tous vos récits. Armand Gatti, le dramaturge et écrivain, metteur en scène, disait qu'un texte fini est un texte mort. D'une certaine manière, vous êtes un peu comme l'écrivain japonais Murakami, c'est-à-dire que vous êtes toujours à la croisée de tous les possibles avec ces réalités parallèles. Si on prend « Ne m'appelez plus jamais mon petit lapin », c'est vraiment comme dans le film, je ne sais pas, de Jeremiah Johnson avec Robert Redford qui part comme ça dans la neige et qui se confond, qui se fond dans le paysage, dans ce cosmos. Il y a un côté aussi très Terrence Malick parfois, mais disons pour parler du cinéma, qu'en est-il justement sur ces fins souvent ouvertes à tous les possibles? C'est pas clos comme la morale du conte, par exemple.
Ah oui, non, moi j'ai l'impression que la fin est un enfermement. Et donc, c'est pas une technique d'écriture. On peut appeler ça une incapacité de finir, une volonté de ne pas finir. Et ce matin, j'avais une question incroyable d'un enfant. quand même, qui, et c'est la première fois que cette question m'est posée, c'est qu'est-ce que tu préfères, finir un album ou le commencer? C'est quand même une extraordinaire question hein, pour un enfant de 10 ans. Et donc, je vais expliquer, mais j'ai mis peut-être 10 minutes à l'expliquer pourquoi je préférais commencer un album que le finir. Et donc, ça se ressent. Et évidemment, l'idée de ne pas mourir est plutôt intéressante. L'illusion, en tout cas. Et donc, finir un album... C'est vrai que le chlore est un problème et finalement je m'en sors, si on peut dire, en donnant peut-être cette envie de rebondir plutôt que de fermer la porte.
Par rapport à cela, il y a plusieurs thèmes que vous soulignez. Tout d'abord celui de la solitude, qui est vraiment un leitmotiv. On a toujours l'impression que c'est des personnes qui n'arrivent pas à s'intégrer dans le monde et à la fois dans l'image aussi.
Je mesure difficilement la part de recette, parce que, si vous voulez, le métier d'illustrateur a une part professionnelle qui est peu artistique, qui est la réflexion du métier, de ce qui en fait d'ailleurs un art mineur, tout simplement. Et donc, c'est vrai que l'idée de faire des personnages perdus dans des pages m'a toujours semblé être assez parlant pour les enfants. Donc, et je veux dire, la construction d'un anti-héros, c'est pour moi évidemment le statut de l'enfance, bien que on a tendance un petit peu à au contraire, pas dans les faits, mais dans la culture, utiliser les enfants comme héros, etc., et leur montrer comme exemple des héros. On se sent, je pense, plutôt solitaire que même, enfin, je veux dire dans la vie, évidemment, mais je veux dire dans l'enfance, même entouré dans la classe ou dans la cour de récré ou dans la famille avec plusieurs frères et sœurs. On peut avoir des sentiments de solitude. Et je crois que l'enfant est assez sensible à ça. Moi, je l'ai été comme lecteur. Et je crois qu'on a envie, quand on fait des livres pour enfants, c'est un attachement à l'enfance, à sa propre enfance. C'est pas choisir un public, évidemment. Enfin, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, oui. Mais dans le meilleur des cas, disons, en temps normal, c'est plutôt un attachement à sa propre enfance.
Il y a aussi un thème qui est celui de la forclusion et notamment la prison qu'on retrouve assez souvent. À la vue de certaines de vos planches et ces dessins de prison, j'ai pensé au zéro et à l'infini d'Arthur Koestler, c'est-à-dire cette espèce de dilatation du temps. Il consacre 6 pages à décrire ce qui nous semble être des journées et des années. Le narrateur regarde sa montre, il s'est passé 2 minutes. Donc pourquoi justement cet aspect de la prison qui apparaît assez souvent?
Disons que le sentiment de l'enfermement, la société vous fabrique une sorte de prison permanente, plus ou moins mobile, c'est quelque chose qui est très présent. Je veux dire, c'est quelque chose qui est plutôt social que, disons, intérieur, comme Kafka pouvait le ressentir. J'ai pas ce sentiment d'étouffement, d'être au milieu de ma cage thoracique comme un oiseau, etc. J'ai plutôt l'impression que la société vous enferme en permanence dans énormément de prisons successives dans lesquelles vous passez d'une à l'autre sans arrêt. Et finalement, je pense que le dessin, l'écriture, la création en général vous permet cette espèce de, non pas de sortie de cette prison, parce que c'est un peu illusoire, mais disons de fabrication d'un univers à l'intérieur de cette prison. Voilà. Et donc, c'est vrai que ces arbres sont des barreaux, évidemment. Mais, disons, la recherche, disons, de cette espèce d'explication du monde, même si c'est très, très prétentieux de dire ça, elle est dans ce désir de dessiner, quoi. Enfin, je veux dire, je pense que quand on dessine, quel que soit le sujet, que ce soit des petits lapins ou que ce soit des sujets religieux, à l'opposé, on peut dire, sont des histoires d'explication du monde ou de tentatives, en tout cas, ou peut-être aussi une espèce de folie qui consiste à vouloir s'accaparer tout ce qu'on voit, tout ce qu'on... fabriquer ses propres signes, non pas consciemment, parce que ça n'a pas de sens, ou alors on devient publicitaire, mais disons, assez naturellement, enfin, ne faire que ce qu'on est capable de faire. c'est-à-dire aller au bout de quelque chose qui vous satisfasse. Enfin, moi, j'ai souvent comme problématique dans mes recherches, aussi dans ce que j'ai fait un livre avec Alain Le Saux qui s'appelle Le Petit Musée, qui était une espèce de d'imagier à partir de l'art, de l'histoire de l'art, et avec des détails de tableaux. Eh bien, cette idée que les artistes, au fond, passent leur temps à fabriquer des signes qui expliquent non pas aux autres, mais à eux-mêmes, comment ils comprennent le monde, c'est assez logique. J'y trouve une certaine satisfaction. Et moi aussi, à ma mesure, j'essaye de fabriquer des signes, non pas pour me faire une personnalité qui serait totalement factice, mais plutôt pour savoir où j'en suis, dans cette capacité de compréhension, enfin, pas de compréhension, mais de captation, finalement, des choses.
Parmi les projets que vous avez, quel est celui qui vous tiendrait le plus à cœur et dont vous pouvez nous dire quelques mots?
Alors, en ce moment, je suis en train de finir une pièce de théâtre, d'écrire une pièce de théâtre qui n'est pas pour enfants. Et donc, c'est une aventure, parce que en France, en tout cas, je crois que c'est un peu partout pareil, on est quand même assez catégorisé très vite, et l'idée que quelqu'un qui fait des petits lapins écrive des choses qui ne soient pas nécessairement pour enfants n'intéresse absolument personne. Donc ça sera une nouvelle bataille, mais j'aime bien l'idée de, à nouveau, d'avoir le droit de tout faire, qui est illusoire, parce que je sais bien que on ne peut pas, on n'a pas plusieurs vies, mais j'ai de plus en plus l'impression qu'il faut faire ce qu'on aime, qu'il faut faire ce qui vous attire, quitte à ce que ce soit totalement raté. J'ai l'impression que c'est une recherche qui est intéressante et qui peut de toute façon nourrir ce qu'on fait, quel que soit le domaine dans lequel on travaille. Et l'idée d'écrire une pièce m'a paru intéressante parce que tout d'un coup j'ai eu une vision avec les acteurs eux-mêmes, avec le décor, comme je dessine aussi, ça m'est assez facile, disons, d'imaginer des choses complètes, avec l'illusion de pouvoir écrire une pièce, de la mettre en scène et de faire le décor dessus. C'est un peu ce qui me préoccupe en ce moment.
Des écrivains de théâtre comme Joël Pommerat et Fabrice Melchior qui font à la fois du théâtre pour adultes et du théâtre pour enfants, quoique pour Pommerat, avec son Chaperon rouge, on peut se demander à qui on s'adresse véritablement, parce qu'il y a un sens de la terreur à la tourneur qui est absolument magnifique. Mais qu'est-ce qu'il en était pour vous, quelques mots sur cette pièce, la fable, la scénographie, peut-être ce que vous avez imaginé?
J'ose pas encore vous en parler vraiment. Il s'agit, ça parle de la vérité, et ça, enfin de la vérité illusoire ou réelle. Ça parle de, et non pas de la réalité, ça parle de l'art, parle aussi de l'ambiguïté du caractère. Ce qui sont mes sujets, en fait, souvent. Et là, c'est une autre forme. Parce qu'au fond, j'ai découvert le plaisir du dialogue en écrivant des films. J'ai découvert le plaisir du dialogue en dirigeant des acteurs pour mon dernier film U. Et donc, j'ai eu très très envie de ce côté humain, de ce rapport humain dans le travail qui me manque quand on est seul dans son atelier. Et donc, j'avais envie de concrétiser ça. Et pour moi, le théâtre, que je connais mal, est une espèce de boîte à paroles, de boîte à... qui m'intéresse. Moi, j'ai beaucoup lu des haïkus, j'aime énormément ça. Je trouve que la poésie à l'état pur. J'avais envie de me tester moi-même sur une grande longueur, puisque, en fait, j'ai tendance, c'est je crois, un vrai défaut de faire des choses un peu impulsives et d'aller trop vite pour mes choses. Et je trouve que tenir la longueur, ça a été aussi un pari avec mes contes que j'ai fait quand j'ai écrit les 365 contes. Donc, et je me suis dit, il faut que je tienne, parce que au fond, en tenant sur la longueur, on solidifie quelque chose. On n'est pas juste quelqu'un pour l'éclat immédiat. Et donc, c'est un peu contradictoire par rapport à mon caractère, qui est de dessiner très vite, etc. Et j'avais envie de tenir. Et je pense que sur un sujet qui m'intéresse, sur des sujets qui m'intéressent, les regrouper avec deux acteurs en scène me plaisait comme idée. Je ne sais pas du tout si j'aboutirais. Je suis en train de le finir, mais est-ce que ça se verra un jour? C'est pas sûr du tout.
genèveactive.ch.